Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
La semaine dernière, le père Arnaud Franck, délégué diocésain aux relations religieuses avec le judaïsme, évoquait la figure de Jean-Miguel Garrigue, dominicain franco-espagnol, auteur de nombreux ouvrages de théologie et de spiritualité. En 2011, il faisait paraître Le peuple de la première alliance, approche chrétienne du mystère d'Israël, un ouvrage dans lequel il s'efforçait de dire à la lumière de l'Ancien et du Nouveau Testament ce que la foi chrétienne enseigne sur la place des Juifs dans le dessein de Dieu. Quelques années plus tard, dans un entretien à bâton rompu que je vous propose d'écouter aujourd'hui, il nous faisait part de ce que sa recherche théologique et sa propre histoire lui avaient permis de développer.
Vous savez, ma première rencontre, je l'ai faite pendant cette année d'études à Salonique, en préparant ma thèse de doctorat, déjà jeune prêtre. Et j'ai poussé un jour la porte d'un petit commerce et j'ai entendu le couple qui tenait ce commerce qui parlait en espagnol. Un espagnol que je comprenais, qui était un petit peu désuet, mais que j'arrivais bien à comprendre. Et je suis resté interloqué, je n'osais pas intervenir. Et puis à un moment donné quand même, je me suis présenté, pensant que j'avais affaire à des Espagnols, peut-être de quelques régions que je ne connaissais pas en Espagne, qui parlaient peut-être une sorte un peu de patois ou quelque chose comme ça. Et je me suis présenté comme Espagnol. Et puis ils ont été bouleversés, c'était des Juifs d'Espagne, qui étaient des Séfarades, donc qui avaient été expulsés dans les familles, mais pensez-vous, en fin du 15e siècle, en 1492, par les rois catholiques, avaient été expulsés, etc. Mais ils avaient gardé le ladino, la langue du judéo-espagnol, ils avaient gardé beaucoup de coutumes, de culinaires, etc., et un très grand amour de l'Espagne après tant de siècles. Et là, j'étais bouleversé parce qu'en même temps, je mesurais du coup que nous avions, par cette décision, mes ancêtres, enfin la monarchie espagnole en tout cas, avait exclu de l'Espagne cette part de nous-mêmes, puisque c'est quand même une part de nous-mêmes. Et donc, il y avait la volonté, le désir effectivement de renouer avec cette part. Et pour eux, c'était bouleversant. Imaginez qu'ils ont été cherchés, ils avaient gardé la clé de leur maison de Tolède pendant 5 siècles, une maison qui n'existe.
Qui a été transmise
de génération en génération.
Et on voit la transmission là encore.
Exactement.
L'importance de la transmission.
Et pourtant, elle n'existe plus, cette maison. Vous devinez bien, après tant de siècles, elle n'existe plus. Mais la clé est là. Et pour moi, cette clé, beaucoup de familles séfarades ont gardé la clé. Pour moi, ça dit quelque chose de très, 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 très fort, de très fort. Et comme espagnol, ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé. Et ce qui fait qu'après, c'est venu par des amitiés, de grandes amitiés. Et j'ai compris aussi combien le juif porte en lui sa nation. Il est juif, bien sûr, par le peuple de Dieu, mais en même temps, il est fils d'une nation. Et ces juifs se disaient toujours juifs d'Espagne, 5 siècles après. Ils portaient la culture espagnole. C'était très bouleversant.
Ils se considéraient presque comme ce qu'ils appelaient des gentilés, c'est-à-dire les gens des nations.
Alors non, parce qu'ils se considéraient vraiment comme juifs, mais juifs de la diaspora, juifs dans les nations, pas des nations, mais au milieu des nations. Et donc, oui, adoptant du coup la nation. Et vous savez, c'est la même chose avec les juifs de culture française et de nationalité française. Quand vous allez à Tel Aviv ou à Jérusalem, si vous êtes un petit groupe de Français, que vous parlez français à voix haute un peu dans la rue, vous êtes sûr qu'à un moment ou à un autre, vous allez voir appliquer des Juifs français qui vont arriver, ou d'Afrique du Nord. « Oh, mais vous parlez français, vous êtes français, etc. » Ils sont tellement contents, parce que l'un n'exclut pas l'autre.
Une histoire personnelle à mettre en abîme avec une expérience vécue en église, puisqu'à la demande du pape Jean-Paul II, il avait alors participé à la rédaction des actes de repentance. Est-ce qu'il s'agissait là d'aller chercher la vérité dans l'universalité et d'aller même à contre-courant de la pensée dominante ?
Oh oui, je dirais même que c'était très bouleversant et même assez douloureux, parce que j'ai participé aux deux colloques que le pape a organisés au Vatican en 97 et 98, qui portait sur les deux points les plus délicats des demandes de pardon. L'un, c'était l'anti-judaïsme de chrétienté, je ne dirais pas d'église, mais de chrétienté, ce qui avait été véhiculé par tant de chrétiens au cours des siècles. Et puis l'autre, très proche d'ailleurs de ce sujet, l'inquisition, le système de répression au plan religieux. Et donc, il a fallu examiner tout ce passé. Le pape avait voulu que les meilleurs, qu'il y ait dans un cas comme dans l'autre, les meilleurs historiens, les plus compétents, quelle que soit leur religion, leurs opinions, etc. C'était vraiment deux colloques qui ont été publiés, d'ailleurs, de très grande qualité. Et on m'avait demandé, dans les deux cas, de faire la conférence théologique qui venait après toutes ces conférences historiques. Et ce n'était pas rien, je vous assure, parce qu'il fallait... Il y avait comment on regarde ça. Est-ce que vous vous rendez... Là, vous vous rendez compte combien il y a des conditionnements qui ont historiques, mauvais, qui ont aveuglé les chrétiens, et pas seulement, j'allais dire...
De bonne foi.
Oui, de bonne foi. En tout cas, très peu étaient de mauvaise foi, de vraiment de mauvaise foi. Et surtout quand vous voyez des saints, des docteurs de l'Église, etc., qui ont donné là-dedans, donné avec une sorte d'inconscience incroyable. Donc, en même temps, c'était très beau, parce que tous ces historiens, qui étaient souvent des agnostiques, en tout cas, il y en avait, ou des juifs, ou des protestants, ils n'étaient pas des non-catholiques, en tout cas, nous disaient, l'Église catholique est la seule institution qui peut poser de manière crédible un acte de repentance pour les fautes commises par ses enfants au cours des siècles. Quand on dit ses enfants, c'est aussi bien ses ministres. Hein. Ça ne veut pas dire... faut pas croire que c'est pour exclure les ministres. Non, les ministres sont... Nous sommes tous enfants de l'Église, y compris les ministres. Et donc, c'était un acte vraiment très mystérieux de l'Église dans sa maternité, dans sa sainte maternité, assumant comme mère la responsabilité, et donc la responsabilité de demander pardon et de réparer pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait dans son être mystique d'épouse du Christ et de mère des chrétiens, mais que d'autres avaient fait en l'impliquant en l'impliquant à tort, évidemment, par un abus, mais en l'impliquant en prétendant qu'ils agissaient en son nom, alors qu'ils ne pouvaient pas faire ces choses en agissant en son nom. Mais ça, on ne le voyait pas. Et donc, quand on le voit, il faut le dire pour que les yeux s'ouvrent. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au nom de l'Église. On ne peut pas faire le mal au nom de l'Église, pas plus qu'on ne peut faire le mal au nom de Jésus. À partir du moment où on fait le mal, on se sépare de l'Église, même si personne ne s'en rend compte, mais c'est une réalité, comme on se sépare du Christ. Et ça, quand on se rend compte, il faut faire repentance, exactement comme pour nos péchés individuels. Dans la confession, c'est pareil.
C'est vrai que ça a dû être quelque chose de très fort, justement, pour ces personnes agnostiques, non-croyantes, tous ces juifs, tous ces protestants, de vraiment toucher du doigt à quel point l'Église pouvait se remettre en question et faire ses actes de repentance.
C'est tout à fait. Et il disait, vous êtes les seuls qui pouvaient le faire parce que vous êtes une Église qui a la continuité historique sur 20 siècles, sans rupture, et en même temps qui a un magistère central, qui est le pape, qui peut l'exprimer. Parce que, voyez, les orthodoxes ont la continuité historique, mais il n'y a pas une voix qui peut parler au nom de toute l'orthodoxie. Tout au plus, ce serait un concile écuménique, mais je veux dire, il n'y a pas... Tandis que les catholiques, on a cette voix unique. Et là, c'est impressionnant de penser que Jean-Paul II, au nom de l'Église, vraiment, a fait acte de repentance pour les péchés de ses enfants.
Dans un autre ouvrage, Par des sentiers resserrés, une autobiographie parue il y a quelques années plus tôt, nous découvrons un religieux qui est tout autant un veilleur, un passeur qu'un éveilleur.
Je pense que le religieux doit être ça. J'ai quitté mon milieu d'origine, un milieu espagnol, un milieu de classe dirigeante, pour être libre, pour pouvoir être un religieux qui serait qu'un religieux de Dieu, du Christ. Et donc cela m'a donné beaucoup de liberté, cette rupture que j'ai faite à 19 ans, qui n'a pas du tout été une rupture affective avec ma famille, que j'aime beaucoup, mais avec un milieu qui m'aurait, je pense, énormément conditionné et qui aurait enlevé à mon ministère sa dimension, oui, un peu plus prophétique. Et donc, c'est vrai qu'après, dans ma vie, j'ai marché par des sentiers resserrés, c'est le titre de mon livre, c'est-à-dire par des sentiers qui ne sont pas très battus. Voilà, parce que les autoroutes ne sont pas des sentiers resserrés. Sur les sentiers resserrés, mais on rencontre peu de monde, souvent.
C'est par goût de la provocation ?
Peut-être qu'il y a un peu de cela, certainement le pensent autour de moi. Et pourtant, non, je suis un tempérament plutôt doux et je ne crois pas être provocateur. Mais c'est vrai que je suis très indépendant. Mais c'est une indépendance que je mets, j'espère, au service de choses supérieures et en particulier de la dimension spirituelle de l'homme. Et il me semble qu'il est très important d'être indépendant à ce niveau-là, de juger par soi-même, ne pas être simplement le produit d'un milieu, d'idées reçues, etc. Alors, je ne suis pas non plus de ceux qui vont refuser systématiquement, comme malheureusement ma génération, je suis de la génération 68, l'a souvent fait, c'est-à-dire qu'on a voulu systématiquement refuser l'héritage de ce qui venait d'avant, de la tradition, de la famille, des parents. Non, je crois qu'il faut... l'héritage, c'est une réalité. On, on, on n'est jamais, on ne naît pas à partir de sa subjectivité de manière complètement isolée. On s'enracine dans quelque chose. Seulement, l'héritage, il faut le recevoir sous bénéfice d'inventaire. Et chaque génération a droit à faire un inventaire critique, pas systématiquement critique et systématiquement de rejet, mais quand même à prendre et laisser dans ce que l'on a reçu. Mais pour pouvoir faire cet inventaire, il faut commencer par accepter l'héritage. Si on refuse l'héritage au départ, ben, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a rien. Et c'est ce qu'a fait souvent ma génération, et du coup elle s'est énormément appauvrie pour transmettre ensuite aux générations qui sont venues après.
Est-ce que vous avez une responsabilité, je parlais tout à l'heure de passeur, à transmettre ce que vous avez reçu et ce que vous êtes aujourd'hui?
Alors, je dirais que j'ai la responsabilité de ce que l'on m'a confié, en particulier dans l'Église, la formation de jeunes prêtres, de futurs prêtres, comme professeur de théologie. Plus largement, je dirais, comme homme de culture et comme intellectuel, si vous voulez, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, mais on est bien obligé de l'employer, une responsabilité de prendre part au débat général de la société à travers des articles, à travers des médias, à travers des, de manière à pouvoir apporter ma réflexion et une réflexion qui elle-même s'enracine dans la tradition chrétienne et qu'il est très important que cette voix soit entendue dans le contexte de la société qui est la nôtre en France. Tout ça, ce sont des responsabilités. Il y a des responsabilités ministérielles comme prêtre et comme théologien. Et puis après, il y a des responsabilités de l'homme de pensée qui sont plus larges, mais qui sont très réelles aussi.
Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens, dans votre livre, donc Par des sentiers resserrés, qui est paru aux Presses de la Renaissance en 2007, vous rendez hommage à Benoît XVI, qui, dans son discours de Ratisbonne, affirme que des intellectuels laïcs, agnostiques ou même non-croyants, se doivent de se laisser interroger par des religieux, mais que l'inverse doit aussi être actif. Donc, c'est cette inter-interrogation qui est importante.
C'est une dimension très intéressante et qui a beaucoup frappé, de fait, les intellectuels de la pensée de Benoît XVI, ce qu'il appelle cette double interrogation de la raison et de la religion. Partant du constat que et la raison et la religion peuvent connaître des sortes de maladies, des sortes de déraillages, je dirais. La raison, ben c'est ce qu'on appelle l'idéologie. C'est des maladies de la raison. Et la religion, eh bien, c'est le fanatisme, c'est la tartufferie. Or, ces choses-là sont des choses humaines, et même l'incroyant se rend compte, par exemple, quand le religieux devient fanatique ou quand le religieux devient tartuffe. Tout ça, même l'incroyant peut se rendre compte. On n'a pas besoin de la foi pour se rendre compte qu'il y a là quelque chose qui humainement ne va pas. Et ça, il faut accepter que dans notre société pluraliste, il puisse y avoir un débat. Vous voyez, c'est la question, par exemple, le débat sur le voile. C'est typique. Le débat sur le voile, jusqu'où c'est le respect de la religion. Mais est-ce que cette religion n'est pas en train de dérailler, qui impose une telle chose à la femme? Parce que si on accepte le voile, de quel droit pourra-t-on interdire l'excision, par exemple, qui se fait aussi pour des raisons de culture religieuse? D'ailleurs, on ne sait plus, on s'arrête. Et à la limite, pourquoi pas une secte comme certaines sectes violentes qui va entraîner ses adeptes au suicide, comme le temple solaire ou des choses comme ça. À la limite, veillez, on ne sait plus où. Est-ce que l'être humain ne doit pas quand même débattre pour savoir s'il n'y a pas des limites? Est-ce que le religieux qui devient qui perd les pédales est encore du religieux vertueux, vous voyez? Tout ce qui est religieux n'est pas forcément vertueusement religieux. Et dans la raison, c'est pareil. Il peut y avoir un déraillage de la raison. Vous voyez, ces systèmes totalitaires, ils semblaient pourtant avoir une sorte de logique interne, mais c'était une logique folle. Et pourtant, c'était très logique, ça. Et ce sont des maladies. Et le pape a lancé cette idée qui ouvre évidemment un champ de recherche, mais évidemment qui suppose aussi du côté des hommes qui sont des penseurs de la raison, de ne pas exclure a priori l'interrogation qui vient de la religion et qui, sans empiéter dans le domaine de la raison, peut néanmoins interroger l'homme qui raisonne pour lui faire élargir son champ de questions, pour qu'il ne se referme pas seulement sur ce qui est mesurable, constatable, sur la positivité pure, pour lui ouvrir son interrogation au domaine de l'esprit.
Auf dem Weg steht ein Bäum, steht er eingebeugen. Alle Vögelech in dem Bäum sehnen sich zerfleugen. Zwei kein Miserech und zwei kein Meierech und im Rest kein Deuren. Und der Bäum gelost allein, hefker fahren Sturm. Sog ihr zu die Mame heilen, soll's mir nur nicht ehren, weil ich Mame eins und zwei bald a Vogel wären. Ich will sitzen auf den Bäumen und will ihm verwiegen.
Interpellé par la vie monastique, le père Jean-Miguel Garrigue s'est beaucoup nourri de la théologie orthodoxe.
C'est-à-dire que j'ai fait mes études de théologie, je me suis spécialisé chez les pères de l'Église, dans les pères de l'Église, et en particulier les pères de l'Église grecque. J'ai fait ma thèse sur un père de l'Église grecque. Et donc, j'ai découvert en eux, et les orthodoxes en sont vraiment héritiers, cette idée que l'esprit, l'intellect doit descendre dans le cœur pour que l'homme soit unifié. Sinon, nous sommes très cartésiens. Nous avons, si vous voulez, d'un côté il y a l'esprit, puis de l'autre côté il y a le corps, et ça fait vraiment deux. Tandis que dans la pensée patristique et orthodoxe sur ce point, il y a une très grande unité du corps et de l'âme. Et du coup, effectivement, la liturgie, toute la tradition spirituelle et tout ça sont là comme de grands adjuvants pour l'intégration de l'être humain.
Une curiosité, une ouverture sur des cultures autres, père Jean-Miguel Garrigue, mais qui a toujours été incarnée. Vous nous dites qu'il faut une unité dans l'être humain, à la fois de l'esprit, du cœur et du corps. Et là, cette ouverture d'esprit, ce désir que vous avez de connaître d'autres cultures, d'autres personnes, c'est toujours incarné à travers des rencontres et des amitiés.
Ça, c'est très vrai. Et je pense que les amitiés, c'est ce qui a conduit ma vie. Plutôt que de la conduire, elle a été conduite par des rencontres souvent bouleversantes, d'êtres qui m'ont ouvert à des domaines auxquels je ne m'étais pas du tout préparé. J'ai été surpris dans des domaines, je pense en particulier ma rencontre avec les Juifs, est quelque chose qui n'était pas du tout planifié dans ma formation. J'étais formé beaucoup plus vers l'orthodoxie, vers la Grèce. J'ai passé une année de préparation de ma thèse, de doctorat en Grèce, et donc j'avais une formation pour ça. Pour les Juifs, pas du tout. Mais ils sont entrés dans ma vie, j'en ai rencontré. Et ça a eu beaucoup de conséquences.
Une vie donc marquée par un double héritage, la pensée grecque et l'héritage biblique.
Ça me frappe beaucoup quand je vais en Israël. J'ai beaucoup tardé à aller en Israël. Je n'y ai été la première fois qu'à l'âge de 50 ans. Et je suis toujours très frappé quand on va en avion, le fait que pour aller d'Europe occidentale en Israël, on est obligé de passer par la Grèce. Il y a ce long moment où l'avion survole, d'ailleurs ces paysages magnifiques de côtes dentelées, d'îles, sur fond de mer bleu intense, de Méditerranée, enfin, cette merveille, ce miracle qu'est la Grèce, est comme si, voilà, les sources bibliques nous étaient données, en tout cas à nous chrétiens, à travers aussi l'héritage grec. Et donc, c'est les deux. Nous sommes fils d'Athènes et de Jérusalem.
Intellectuel atypique, la pensée du père Jean-Miguel Garrigue entre plus que jamais en résonance avec le monde d'aujourd'hui.